Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter la campagne électorale qui se termine demain au Burkina Faso, élection présidentielle dimanche, un scrutin historique car depuis le début des années 80, c'est la première élection sans Blaise Compaoré, chassé du pouvoir il y a tout juste un an. Jamais une élection au Burkina Faso n'a été aussi ouverte, 14 candidats sont en lice, en tout cas le vainqueur dirigera la première alternance démocratique depuis des décennies. Alors quel regard portez-vous justement sur la campagne électorale? Quelles doivent être les priorités du nouveau président? Se dirige-t-on vers des élections incontestables? Vous êtes nombreux déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Je lirai quelques-uns de vos commentaires tout à l'heure pour alimenter le débat. En attendant, vous nous appelez, nous vous donnerons la parole dans 30 minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, comme tous les matins, à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Encore beaucoup de questions standards sur la situation après les attentats du 13 novembre à Paris. Bonjour Mouktar, Mouktar Saya, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez, je dis bonjour à vos invités et à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Londres et vous avez, vous, une question sur l'une des mesures annoncées par François Hollande pour lutter contre le terrorisme sur le territoire français.
Effectivement, je vous appelle du sud-est de Londres, plus précisément de Blackheath. Et ma question concernant l'instauration de l'état d'urgence. Monsieur Gomez, après les attentats de Paris, plusieurs hommes politiques français ont évoqué la création d'une garde nationale. Mon souci est de savoir quelles seront les conditions de recrutement. Dépendra-t-elle de l'armée nationale? Où sera-t-elle indépendante?
Bonne question, effectivement. C'est vrai que dans son discours devant le Congrès, François Hollande a annoncé sa volonté de créer une garde nationale. Olivier Four, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste des questions défense à RFI. Si j'ai bien compris, l'idée du président, c'est de permettre à des citoyens, donc à des hommes comme vous et moi, de relayer les forces de l'armée, les forces de l'ordre?
Oui, en réalité, ça se fait déjà en France, mais ça fonctionne mal. Donc, c'est un vieux chantier, la réforme des réserves en France. En France, on parle pas trop de garde nationale. Garde nationale, c'est plutôt un terme qui nous vient des États-Unis. En Angleterre aussi, on parle de garde nationale et de réserve. En France, on parle plutôt de réserve, de réservistes. Donc, ça fait des années qu'on essaye de un peu dynamiser en France cette réserve. Le président Hollande veut une réserve à 40 000 hommes. Aujourd'hui, c'est 28 000 hommes. Alors, il y a eu plus dans le passé, il y a eu plus de monde. Ça a été réduit par mesure d'économie. Aujourd'hui, on essaye de remonter à 40 000. C'est l'objectif du président. C'est l'objectif aussi de la fameuse LPM, la loi de programmation militaire. Donc, en fait, cette histoire de réserve était déjà dans les tuyaux, comme on dit, avant même les attentats. Parce que, les Français ont regardé ce qui se passe à l'étranger et ont regardé notamment l'épisode de 2005, l'ouragan Katrina aux États-Unis. 2005, l'armée américaine est engagée en Irak. Elle est engagée en Afghanistan. Et en fait, finalement, les Américains se rendent compte qu'il y a peu de monde mobilisable pour aller aider les gens qui sont en grande difficulté à la Nouvelle-Orléans à cause de ces inondations, problèmes de sécurité, problèmes de routes coupées, etc. Et donc, les Américains ont cet immense réservoir de force parce que chez eux, la réserve, ça existe depuis des années. C'est un réseau de réservistes. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'hommes, 460 000 hommes. Et donc, pour cet épisode de l'ouragan Katrina, ce sont près de 50 000 réservistes qui vont intervenir et qui vont faire des choses qui sont parfois relativement simples, qui vont partir avec des petits bateaux pneumatiques, inspecter des maisons, fermer des zones, empêcher les pillages et venir en aide aux gens.
Ce sont donc des civils qui se rendent disponibles pour l'armée en cas de besoin. Comment ça va se passer en France? J'imagine déjà qu'il faut le feu vert de l'employeur.
Alors, il y a deux possibilités en France. Il y a tout d'abord, en réalité il y en a trois, il y a tout d'abord des réservistes qui sont d'anciens militaires. En fait, ce sont des militaires qui ont quitté leur fonction de militaire, qui ont terminé leur contrat et qui doivent être disponibles encore pendant 5 ans si l'armée les appelle. Et puis il y a des réservistes comme vous, comme moi, je suis pas réserviste, mais enfin qui peuvent être qui peuvent être professeurs, qui peuvent être journalistes, qui peuvent être médecins, voilà, qui eux peuvent être mobilisés, mais effectivement, il faut que l'employeur donne son feu vert et ça c'est compliqué parce qu'il faut je crois un mois de préavis, donc c'est un peu compliqué quand on voit une situation d'urgence comme on a pu la vivre il y a quelques temps, ou même s'il y avait une crue, par exemple une crue de la Seine à Paris. Et puis ces réservistes font environ 21 jours de réserve par an, donc 21 jours on va dire sous les drapeaux pour l'armée, mais
21 jours pour être formé, j'imagine.
Voilà, ceci, faut être formé, alors, ceci inclut leur mission et en même temps la formation, donc au final ça fait très peu.
Mouktar nous demandait de qui dépendra la garde nationale.
Vraisemblablement de l'armée, mais ce sera une force qui sera amenée à travailler énormément en interministériel. On le voit bien, puisqu'on voit bien que les missions qui pourraient être confiées à cette garde nationale sont avant tout des missions interministérielles en cas de catastrophe industrielle, catastrophe naturelle, terrorisme, comme en ce moment.
Merci beaucoup Olivier Four, spécialiste des questions défense. Mouktar, bonne journée à Londres. Nous accueillons Lamine. Bonjour.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances au peuple français à propos des disparus du 13 novembre.
Merci beaucoup Lamine. Vous êtes à Banjul en Gambie. Vous avez également des questions, on vous écoute.
Effectivement, j'ai entendu que le président français François Hollande a remercié le roi du Maroc pour l'assistance de ses services secrets lors des attentats terroristes de Paris et de Saint-Denis. À ce propos, je voulais savoir comment les services de renseignement marocains ont pu localiser Abdelhamid Abaoud à Paris.
Oui, Abdelhamid Abaoud, l'instigateur des attentats de Paris. Et effectivement, c'est avec la collaboration des services de renseignement marocains qu'il a été localisé. C'est ce qui a permis aux forces de l'ordre de lancer cet assaut à Saint-Denis la semaine dernière dans la banlieue parisienne. Bonjour Sarah Doublier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante d'RFI au Maroc. Bonne question de Lamine. Comment les services de renseignement marocains ont-ils réussi à localiser Abaoud?
Alors pour ce qui est du détail, difficile d'en savoir plus, hein, car le principe même des renseignements et de ces services, eh bien, c'est la confidentialité. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que, et cela m'a été confirmé ici au Maroc par une source sécuritaire, c'est que des informations en provenance de Rabat ont permis d'éviter d'autres attentats prévus sur le sol français. Le Maroc, via ses services, a aussi permis l'identification de Hasna Ait Boulhassen, la cousine de Abdelhamid Abaoud, mais aussi celle des frères Salah et Brahim Abdeslam ou encore Bilal Hafdi. Alors la France collabore déjà depuis assez longtemps avec le Maroc dans le domaine sécuritaire. Les deux pays avaient accusé l'année dernière un froid diplomatique pendant un an d'ailleurs, et avaient repris langue, en particulier en matière de lutte antiterroriste après les attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier. Une réconciliation qui avait été voulue par Paris, car la France était particulièrement gênée de cette absence d'informations en provenance du Maroc.
Alors justement, pourquoi les services de renseignement marocains sont-ils si précieux pour les Français?
Eh bien parce que le Maroc est très actif depuis les attentats de Casablanca en 2003 en matière de lutte antiterroriste dans son pays donc, mais aussi à l'étranger. Alors il dispose, le Maroc, d'un service de renseignement extérieur, un peu comme la CIA pour les États-Unis ou la DGSE en France, qui se nomme la DGED, la Direction des générale des études et de la documentation, qui suit de très près les activités de la diaspora marocaine en Europe et par extension eh bien des binationaux, les enfants de cette diaspora, qui sont donc des ressortissants franco-marocains, belgo-marocains ou encore hispano-marocains. Il y aurait, selon Rabat, environ 1500 djihadistes binationaux combattant aux côtés de Daesh et Abdelhamid Abaoud, ainsi que plusieurs membres donc du commando responsable de ces attaques de Paris en faisaient partie. Ils étaient par conséquent dûment suivis et surveillés par le Maroc en raison de leur capacité élargie de circulation grâce à leurs deux passeports. Il faut enfin savoir que les policiers marocains avaient acquis une expertise précise dans les filières djihadistes belgo-marocaines en général et en particulier celle de la commune de Bruxelles de Molenbeek, le réseau lié à Al-Qaïda qu'animaient Abdelkader Belirage et Ali Arras, qui sont deux djihadistes qui avaient été arrêtés, un réseau qui avait été démantelé au Maroc en 2008.
Oui, d'ailleurs la Belgique, en l'occurrence le roi Philippe de Belgique, a demandé à son homologue marocain une collaboration plus étroite et plus poussée encore en matière de renseignement. renseignement et de sécurité. Faut dire, et vous le disiez à l'instant, Sarah, que les renseignements marocains ont accumulé au fil des années une expertise, un savoir-faire. Ils travaillent un peu comme à l'ancienne, dit-on.
Oui, c'est ça. Il recueille finalement des informations de terrain, de première main. C'est le cas d'ailleurs au Maroc où jusqu'aux gardiens de parking sont mis à contribution pour renseigner les autorités. Il faut aussi savoir que depuis la création de Daesh, le Maroc, qui est un pays touristique, est obsédé par le possible retour de djihadistes marocains ou binationaux sur son sol. L'organisation terroriste via ses membres marocains, ses cadres de Daesh, avait menacé à plusieurs reprises de s'en prendre au royaume chérifien. Et pour ceux qui tentent de rentrer au pays de retour de ces zones de conflit d'Irak ou de Syrie, eh bien, ils sont d'emblée conduits en prison. Aujourd'hui, aucun djihadiste marocain parti combattre aux côtés de Daesh n'est aujourd'hui en liberté au Maroc. La loi a également été durcie en la matière. Toute personne marocaine ou étrangère ayant la simple intention de rejoindre l'organisation encourt aujourd'hui de la prison ferme. Une politique préventive, donc du tout sécuritaire, particulièrement ferme et peut-être discutable, mais qui pour l'instant a porté ses fruits, puisqu'aucune attaque terroriste n'a été perpétrée depuis 4 ans au Maroc.
Merci pour toutes ces informations, Sarah Doublier, correspondante d'RFI à Casablanca. 33 9 693 693 70. Des questions pour mieux comprendre l'actualité. Mamadou Mouktar nous appelle de Dakar. Bonjour Mamadou Mouktar.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Nous vous écoutons.
Le gouvernement français veut lutter contre le radicalisme et islamiste en fermant les mosquées radicales. Qu'entend-on par islam radical et mosquée radicale?
Ah, question simple, je ne sais pas si la réponse l'est tout autant. Bonjour Samir Amgar.
Bonjour monsieur.
Vous êtes sociologue, spécialiste du salafisme et de l'orthodoxie en islam, chercheur à l'Université libre de Bruxelles. La semaine dernière à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Manuel Valls a martelé « Oui, nous avons un ennemi, il faut le nommer, c'est l'islamisme radical. » Et un des éléments de l'islamisme radical, c'est le salafisme. Vous partagez cette analyse ou pas, Samir Amgar?
Alors, au regard de mon expertise, il est difficile de considérer que les propos de Manuel Valls correspondent à la réalité parce que d'une manière générale, si vous voulez, on entend par mosquée radicale une mosquée qui prêche un discours haineux fondé sur l'islam et qui en même temps incite à l'usage de la violence comme un moyen de résolution des conflits. Et bien souvent, on identifie une mosquée radicale à un imam qui l'est tout autant. Et on considère globalement que ces mosquées participent des processus de radicalisation, soit en incitant des jeunes musulmans à commettre des attentats en Europe, soit à partir sur des théâtres de conflit, notamment en Syrie. Ouais. Or, depuis le 11 septembre 2011, il n'existe plus en France, mais également en Belgique, de mosquées radicales dans la mesure où la pression sécuritaire a été telle au lendemain des attentats de New York que des imams ont été expulsés et que même les responsables des mosquées ont décidé de faire le ménage à l'intérieur de leur lieu de culte pour éviter que leur mosquée soit fermée par la suite.
Ouais, on dit que 45 personnes ont été expulsées, ou en tout cas ont fait l'objet d'arrêtés d'expulsion. Des personnes appartenant, alors ce ne sont pas forcément que des imams, mais des personnes appartenant à des mouvances radicales de l'islam en France. Vous dites qu'il n'y a plus de mosquées radicales. En même temps, le ministère de l'Intérieur estime à peu près à 150 le nombre de mosquées radicales en France.
Alors, lorsqu'elle considère que ces mosquées sont radicales, elle considère uniquement qu'on a affaire à des mouvements qui défendent une lecture ultra-orthodoxe de l'islam. Il faut bien avoir à l'esprit que la version salafiste française, en fait, existante sur le territoire hexagonal, est majoritairement de type quiétiste. Autrement dit, vous avez une forme très particulière du salafisme qui se caractérise par trois éléments. Le premier élément, c'est une ultra-orthodoxie. Mmh. Qui implique, si vous voulez, une non-reconnaissance des valeurs dominantes de la société. Deux, un apolitisme revendiqué. Autrement dit, vous avez affaire à des mouvements qui ne veulent pas mélanger religion et politique. Et trois, un rapport, si vous voulez, très particulier à la violence, parce que ces mouvements condamnent systématiquement la violence faite au nom de l'islam.
Donc vous faites, excusez-moi Samir Amghar, la différence entre la radicalisation violente, qui elle est sous le coup de la loi en France, et le fondamentalisme religieux, qui est également une forme de radicalité, et pour le coup, le fondamentalisme religieux, lui, n'est pas condamné en France. Allô ? Samir Amghar ?
Oui, vous m'entendez ?
Là, on vous entend, vous avez perdu quelques secondes.
Oui, voilà. Donc oui, effectivement, il faut distinguer, on va dire, deux formes de radicalisation. Une radicalisation de type religieuse et également une radicalisation de type violente. Et la première forme de radicalisation n'amène pas, si vous voulez, de manière mécanique à la radicalisation violente. Et donc, cette radicalisation, si vous voulez, religieuse, est punissable à partir du moment où les prêches, ou les propos, ou les discours remettent quelque part en cause l'ordre public. C'est le curseur à partir duquel, si vous voulez, les pouvoirs publics peuvent intervenir et remettre en cause cette expression religieuse.
Ouais, c'est ce qu'a dit Manuel Valls. Il veut fermer les mosquées, les associations qui s'en prennent aux valeurs de la République. Samir Amghar, merci d'avoir été avec nous. Sociologue, spécialiste du salafisme et de l'orthodoxie en islam. Autre sujet qui n'a rien à voir, on en parlait hier, vous savez, ce scandale qui frappe l'athlétisme mondial après la publication, il y a maintenant une dizaine de jours, du rapport d'une commission d'enquête indépendante qui a été mise en place par l'Agence mondiale antidopage. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan.
Merci d'être à nouveau avec nous. Nous avions hier en ligne Marthe, on a rappelé Marthe. Marthe avait une question qui lui tenait à cœur. Rebonjour et bonjour Marthe.
Bonjour messieurs,
vous
merci
êtes en...
de me rappeler.
Mais c'est normal Marthe. Vous avez une question toujours sur le dopage international.
Oui, c'était par rapport au budget de l'Agence de lutte contre le dopage. J'ai entendu, je crois, 20 millions de dollars.
Oui, on parle même de 25 millions d'euros.
C'est un petit peu plus, mais de toute façon, c'est pas beaucoup.
C'est peu.
C'est le budget d'une équipe cycliste, par exemple.
Oui.
Que l'Agence de lutte pouvait faire avec un budget aussi limité.
Ah, ça c'est une bonne question effectivement Alejandro. Donc vous dites, cette agence mondiale antidopage dispose d'un budget aussi important qu'une équipe cycliste?
Voilà, exactement. Mais il faut comprendre qu'en fait c'est pas l'agence mondiale antidopage qui s'occupe des contrôles dans le monde en vertu du code antidopage adopté en 2005. Ce sont les fédérations sportives qui sont qui ont la charge de faire les contrôles antidopage. On a vu avec quel succès avec la Fédération internationale d'athlétisme. Donc on fait, en quelque sorte, ça se passe comme si le monde sportif voulait plutôt cacher la poussière sous les tapis plutôt que d'enlever totalement le problème du dopage. Donc ces contrôles par les fédérations de la lutte contre les dopages donnent lieu à des grandes disparités entre les sports et entre les pays. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les problèmes qu'on relève dans le monde de l'athlétisme poussent les comités internationaux olympiques à vouloir que l'Agence mondiale antidopage prennent effectivement en charge ce dossier. Il faudra effectivement la doter d'un statut et d'un budget conséquent, mais il faudra aussi et surtout avant modifier les codes mondiaux antidopage. Et c'est un code en fait qui a été adopté par l'ensemble de la communauté internationale. Donc vous imaginez que ça va prendre beaucoup de temps.
Ouais, donc le comité international olympique veut que cette agence prenne la responsabilité de tous les contrôles. On a vu rapidement un certain nombre de fédérations se dire hostiles à ce projet, dont la FIFA. La FIFA ne veut surtout pas que pendant la Coupe du Monde de football, cette agence se charge des contrôles. La FIFA veut toujours avoir la main mise sur le contrôle de ses joueurs.
On peut comprendre que si vous organisez un événement sportif, vous n'avez pas envie de voir tous les jours des scandales de dopage polluer, disons, le déroulement de la compétition. Donc les fédérations, en fait, veulent en quelque sorte qu'il y ait de la prévention, donc que l'existence de contrôles dissuade de faire des dérives très grossières, mais pas de créer vraiment de mettre la lutte contre le dopage au centre du jeu sportif.
Donc voilà, il y a encore beaucoup de ménage à faire, si je comprends bien.
Beaucoup de ménage à faire, et il faudra surtout convaincre tous les pays et toutes les fédérations, ça va être vraiment un travail de longue haleine.
Marthe, on a répondu, ça y est, à toutes vos questions?
Oui, mais je reste persuadé que ça ne se fera pas le ménage, que tout va continuer comme avant.
Bah, merci d'écouter RFI en Bourgogne, en tout cas. Merci de votre fidélité, Alejandro Valente, bonne journée.
Merci.
À bientôt. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain. D'ici là, vous nous appelez 33 9 693 693.
16h70. Il me reste 30 secondes. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que lundi, nous vous proposerons une émission spéciale à l'occasion de l'ouverture à Paris de la COP21, la conférence climat des Nations Unies. L'occasion de nous poser toutes vos questions sur les négociations, le réchauffement climatique et ses conséquences, les moyens qu'il va falloir mettre en place pour relever ce défi, les défis qui attendent l'Afrique. Donc toutes vos questions, et on sera un plaisir évidemment avec tous nos invités d'y répondre. Tout de suite le journal, et on revient dans 10 minutes pour le débat du jour.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.